Donc après cette première séance d'introduction qui a essayé de camper un peu le paysage, nous allons là nous poser une question très précise, à savoir comment Internet a bouleversé le régime de construction des opinions et donc contribué à modifier ce rapport de la connaissance et de l'opinion. Pour traiter de cette question, nous allons entendre successivement Dominique Cardon et Romain Badoir. Dominique Cardon a eu une longue expérience de terrain, si je puis dire, des questions de l'Internet, puisqu'il a appartenu pendant une vingtaine d'années, pratiquement, au laboratoire d'Orange. Orange, comme précédemment France Télécom, en effet, avait un laboratoire à la fois de sociologie et d'analyse des nouvelles technologies qui était un point très important de cristallisation de la réflexion sur les nouveaux outils et les nouveaux médias qui étaient en train de se mettre en place. Et il a, dans ce cadre-là, été un des principaux animateurs d'une des revues qui centralise un petit peu, pourrait-on dire, la réflexion sur ces sujets, qui est la revue Réseau. Et puis, récemment, il a publié plusieurs ouvrages. D'abord, un des plus récents, c'est un ouvrage qui a pour titre « À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l'heure des big data ». Il avait aussi publié le livre sur la démocratie Internet, avec ses problèmes, promesses et limites. Et puis, il a également publié une étude sur ce qu'on appelait les médiactivistes, c'est-à-dire cette nouvelle forme d'activisme politique autour des nouveaux médias. Actuellement, il est responsable du Media Lab de Sciences Po. Et Romain Badoir est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Lui aussi est responsable d'une revue, c'est la revue Participation. On parlait tout à l'heure de démocratie participative, mais la revue Participation est plus large, si je puis dire, que la démocratie participative. Et puis, il a dans ce cadre animé des numéros spéciaux de revues, une sur le thème des arènes du débat public, l'autre de controverses et communication. Et puis, très récemment, il a publié un ouvrage tout à fait intéressant qui a pour titre « Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande ». Donc, je crois qu'ils sont tous les deux parfaitement compétents pour nous aider à mieux comprendre les enjeux et les dérives qu'il y a derrière Internet. Donc, Dominique Cardon, vous avez la parole.
Bien, alors... Tout marche comme ça, voilà, c'est formidable. bien, mais merci beaucoup pour l'invitation à venir parler dans ce débat sur la post-vérité. Et je voudrais commencer par cette petite introduction historique, puisque nous sommes tous persuadés que le 30 octobre 1938, la population stupéfiée des États-Unis s'est précipitée dans les rues pour fuir une attaque martienne dont Orson Welles venait de faire l'annonce sur la chaîne de radio CBS lors d'une adaptation théâtrale de La guerre des mondes de Henry George Wells. Des milliers de familles de Newark, dans le New Jersey, lieu d'atterrissage des martiens, étaient dans un tel état de terreur qu'elles ont abandonné leurs maisons, rempli leurs voitures de biens de première nécessité et ont fui dans les montagnes pour échapper à la fureur des martiens. L'image d'un pays paniqué par les extraterrestres est désormais entrée dans les livres, les documentaires et l'imaginaire public. Cette panique n'a jamais eu lieu. Dans un ouvrage absolument remarquable, Brad Schwartz a minutieusement reconstitué l'ensemble des éléments qui ont concouru à la fabrication de ce mythe. Le nombre des gens qui ont manifesté une inquiétude panique est si faible que les historiens en fait se disputent quelques maigres témoignages sur la panique en question. Les rues étaient plutôt désertes, les hôpitaux n'ont jamais été encombrés, l'attroupement à Times Square n'a été vu par personne, et si la radio et la police ont reçu quelques appels téléphoniques, un peu plus d'appels téléphoniques que d'ordinaire, il est très difficile d'y voir une quelconque panique. Alors, l'argument de la déconstruction de la panique de la guerre des mondes proposée par Brad Farr et beaucoup d'autres historiens qui ont étudié cette question, et de montrer que les journaux ont en grande partie fabriqué, à travers des unes, des témoignages, des anecdotes, la frayeur des Américains, et qu'elle a constitué cette impression durable, puisque nous l'avons toujours aujourd'hui, que la radio avait tout d'un coup sensibilisé les populations américaines à l'arrivée des Martiens. Elle a été aidée en cela par la contribution de Hadley Cantrill, psychologue de Princeton, qui a mené une grande enquête sur la panique martienne de l'époque, ouvrage paru en 1940, une étude de psychologie de la panique des Américains, et ouvrage aujourd'hui très contesté, d'abord parce qu'il s'appuie sur un sondage dont les résultats ont été manifestement interprétés de façon surprenante et parfois étrange, et parfois en dépit des questions qui avaient été posées aux personnes, et surtout parce que les enquêtrices de la fameuse panique martienne avaient le plus grand mal du monde à rencontrer des gens qui ont cru à la panique martienne. Elles en ont trouvé 38 au terme d'une longue enquête, et ont passé leur temps à se disputer, je caricature, mais à se disputer avec Hadley Cantrill pour essayer de lui dire que, d'une certaine manière, la réception de l'émission radiophonique d'Orson Welles, par finalement assez peu de monde par ailleurs, n'avait pas suscité exactement cet effet de croyance ou d'incroyance que Hadley Cantrill voulait absolument voir dans un contexte politique qui est celui de la montée de l'hystérisme en Allemagne, de la montée de populisme aux États-Unis, dans lequel l'idée qu'une fragilité des populations et une fragilité des populations qui seraient sensibilisées et sollicitées par ce nouveau média qui est la radio, nouveau média qui était en train de capturer le marché publicitaire de la presse écrite, qui a fabriqué le mythe de la panique, s'était mise en place. Alors la thèse d'Hadley Cantrill qui était l'idée dominante dans la sociologie ou les études des médias de l'époque, était l'idée que la radio avait des effets forts sur les publics, qu'elle était susceptible de débrancher la raison des nouveaux auditeurs pour attirer en eux, mesmériser, hypnotiser des auditeurs qui allaient croire immédiatement au message qui leur était donné. On appelait ce modèle, premier modèle de la sociologie des médias, modèle de la seringue hypodermique, et qui correspondait à celui des effets forts des médias. Alors je vous raconte cette histoire parce que dans l'histoire des études sur les publics et sur les médias, les enquêtrices de Hadley Cantrill ont, avec Paul Lazarsfeld, qui participait à cette enquête, qui s'est brouillé avec Hadley Cantrill à l'occasion de cette enquête, un peu déçue, voire furieuse, à l'égard de l'interprétation que le psychologue avait posée sur la réalité assez impalpable de la panique martienne, sont allés avec Paul Lazarsfeld créer un autre paradigme de sociologie des médias qui donnera lieu à cet ouvrage majeur de la sociologie des études de réception et des médias de 1944 qui est The People's Choice. Et The People's Choice va proposer un tournant important dans la sociologie de la réception des médias qui est de dire qu'aux effets forts succèdent des effets limités des médias, qui va notamment être porté par cette idée du modèle de la communication à deux étages dans lequel des leaders influents, à travers la réception des médias, à travers l'usage social qui est fait de l'information qui a été reçue par les médias, est interprété, critiqué, remobilisé et approprié par les publics. Et on est entré d'une certaine manière dans le paradigme qui est devenu dominant dans la sociologie des études des médias et de la réception, qui est celui des effets faibles ou limités des médias. Alors, cette introduction me invite à se demander si nous ne sommes pas tous un petit peu en train de rejouer la guerre des mondes dans le débat sur les réseaux sociaux d'Internet produisent à nouveau des effets forts, hypnotiques, mesmérisants des auditeurs à la raison vacillante et croyant immédiatement aux nouvelles massives, nombreuses, fausses, trompeuses, qui sont calculées, qui sont diffusées aujourd'hui sur Internet. Alors, je voudrais essayer de revenir sur cette question, essayer de relativiser en partie cette idée que les fake news produisent des effets forts, en tout cas, sur les publics, et pour le faire, revenir d'abord sur deux propriétés des espaces publics numériques que je vais résumer de façon très très rapide, simple et un petit peu naïve, mais pour essayer de faire entendre deux arguments qui s'entendent pas tout le temps de façon évidente dans les débats qui sont faits, débats qui partent de l'idée absolument vraie qu'avec Internet, nous sommes entrés dans une dérégulation du marché informationnel. Les producteurs restreints, limités, des médias traditionnels qui informaient un public silencieux, ne sont plus seuls producteurs d'informations. Et nous avons désormais un nombre considérable, à travers des blogs, des sites web et les réseaux sociaux, de producteurs d'informations qui créent un espace beaucoup plus complexe, beaucoup moins lisible et du coup interprété comme un espace incontrôlé et sauvage dans lequel toutes les informations pourraient circuler et être accessibles à tout le monde en même temps. Or, les deux résultats auxquels je voudrais être attentif, c'est d'abord que sur Internet, la visibilité des le fait qu'une information est accessible ne signifie pas qu'elle est vue. Et sans doute projetons-nous beaucoup sur Internet une règle de raisonnement que nous avons formée dans l'espace public traditionnel de la presse, de la radio et de la télévision. Si une information est publiée, elle a immédiatement un public. Sur Internet, une grande partie, pour ne pas dire la moitié des informations, est une information qui n'est vue par personne et qui sont des informations mortes et silencieuses. Il y a une hiérarchie de la visibilité sur Internet qui est incroyablement forte et ce point de structure essentiel de la hiérarchie de l'attention et de la visibilité sur Internet mérite d'examen quand on compare des comptes Twitter, par exemple, qui n'ont absolument rien de commensurable dans leur nombre d'abonnés. Hein. Le Monde a 7 millions, quasiment 8 millions d'abonnés sur Twitter. Soral a 31 000 abonnés sur Twitter. On compare des chiffres qu'on met souvent à plat sur le même graphe, qui en réalité montrent une attention du public et une visibilité de ces comptes extrêmement différentes. Il est évident que ce compte est un compte important de Twitter et qui a des effets, mais le rapporter aux comptes ou sites qui ont une visibilité haute sur Internet est évidemment se méprendre sur ces informations. Et puis le deuxième élément de structure que je voudrais rappeler sur la structure de l'espace public numérique, pourrait-on dire, moi je l'emprunte. J'emprunte toujours sa formulation à L'opinion et la foule de Gabriel Tarde, livre de 2001, dans lequel, pour le dire naïvement et très simplement, Tarde nous expliquait qu'il y avait deux circuits de l'information dans la formation de ces foules devenues publiques qui vont apparaître à l'aube du XXe siècle. Le premier est le fait qu'une information descend vers son récepteur et son lecteur et qu'il, en citoyen bien informé, va s'approprier, par la lecture du journal, une information qui arrive. Mais ce à quoi Tarde s'est toujours intéressé, c'est le fait qu'une grande partie de la réception, de l'appropriation de l'information, ne se fait pas simplement dans la lecture du journal, mais elle se fait surtout et avant tout dans les conversations qui, avec la famille, avec les collègues, avec des inconnus, avec des gens croisés dans des associations ou des clubs, vont fabriquer cette mise en discussion et cette appropriation de l'information par lequel nous devenons véritablement des publics. Alors pour Tarde, ces deux circuits, le circuit de l'information qui vient vers le lecteur et le circuit de la conversation par lequel nous nous approprions les informations, nous les rendons intelligibles, nous les critiquons, nous les commentons, nous les discutons, nous y croyons ou nous refusons d'y croire, ces deux circuits étaient déconnectés et séparés. Et sans doute que la grande nouveauté du numérique, à la fois sa promesse et en même temps, à l'évidence, son facteur de fragilité, c'est que ces deux circuits sont de plus en plus superposés l'un à l'autre, et que nos conversations, nos manières de commenter, de partager de l'information sur le web sont en partie publiques et sont en partie accrochées aux sites d'information à haute visibilité qui distribuent et qui rendent visible l'information. D'une certaine manière, les producteurs d'information, les médias en ligne, ne contrôlent plus du tout le contexte dans lequel nous lisons l'information, mais surtout dans lequel nous la partageons, la mettons en conversation, dans les espaces dits des réseaux sociaux du numérique. Alors, cette mise en place de deux propriétés importantes, me semble-t-il, de l'espace public, invite à essayer de vous présenter quelques-uns des travaux qui ont été conduits à propos du débat sur les fake news et de l'élection présidentielle américaine. Parce qu'il est toujours surprenant de constater que nous avons beaucoup de travaux qui vont venir montrer l'importance absolument massive de la mise en circulation d'informations fausses, d'informations de fake news produites pour des raisons commerciales, de fake news produites pour des raisons d'influence politique russe, par exemple, de fake news produites par des officines politiques mises en place par différents partis, groupuscules politiques dans l'espace public numérique. Mais la plupart de ces travaux, enfin, la plupart des conséquences ou des interprétations que nous faisons de ces travaux, c'est que, oui, dans l'espace public numérique, beaucoup d'informations fausses, douteuses, délibérément trompeuses ont circulé, mais que savons-nous des effets de cette circulation intense et massive des fake news dans l'espace public numérique sur ceux qui les ont lus et sur ceux qui ont voté? Et à ce point du débat, il est frappant de constater à quel point la panique qui se crée autour du débat sur les fake news ignore à peu près totalement les effets qu'ont pu produire ces informations sur les personnes et remobilise, comme dans la guerre des mondes d'Orson Welles, un paradigme des effets forts. Si ça circule, s'il y en a beaucoup, c'est que ça a eu des effets. Et cet effet est immédiat, massif, sur des esprits faibles qui auraient cru naïvement toutes les informations mises en circulation dans l'espace public. Alors, pour revenir sur ce débat, d'abord montrer qu'elles sont effectivement massives et elles ont été très nombreuses. Craig Silverman, dans BuzzFeed, a mis en forme les chiffres qui ont ensuite constitué tout le débat américain sur cette question, montrant notamment que, à l'approche du jour des élections, le nombre d'informations fausses circulant sur Facebook était supérieur aux informations dites sérieuses circulant sur Facebook, et comparant pour ce faire le fait que des informations fausses sur Facebook avaient un niveau d'engagement qui était beaucoup plus fort que les informations faibles, les informations dites sérieuses sur Facebook. Ce qui a amené beaucoup de débats, qui a permis de construire dans le débat public cette idée que, d'une certaine manière, pour certains journaux, et on entend encore cette musique assez fréquemment, les fake news ont fabriqué l'élection de Donald Trump et sa popularité. Alors, je voudrais vous présenter rapidement et vous ennuyer un petit peu en vous présentant ces travaux un peu quantitatifs, mais je vais le faire de façon rapide, et si vous voulez plus d'informations, mes slides seront disponibles pour trouver les références que je vais citer, sur le fait qu'une partie du débat scientifique américain est étonnamment peu présent dans les discours publics, sont venus montrer que, sans nier le fait que, à l'évidence, cette circulation massive de fausses informations peut avoir à toucher les publics, a eu des effets sur certains types de publics, mais que leur prêter un effet massif est sans doute très largement erroné et qu'une grande partie de ces travaux viennent, d'une certaine manière, relativiser l'idée que les fake news ont eu des effets forts, en tout cas sur les décisions des électeurs américains. Ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, les chiffres du numérique sont des chiffres qu'il faut toujours prendre avec attention parce qu'ils sont toujours immédiatement colossaux et monumentaux. Alors, Craig Silverman insiste pour dire qu'il y a 8 millions de partages de fake news sur Facebook. 8 millions, ça a l'air considérable et colossal. Ça représente 0,006% des partages faits sur Facebook par les Américains sur la période considérée. Donc, juste première relativisation sur les chiffres qui sont donnés. Une autre étude, très riche et très intéressante, antérieure à l'élection présidentielle, fait par David Brookman sur les effets de la publicité politique sur Facebook. Les auteurs de cette enquête, c'est un article très solide et sérieux de Political Behavior, étaient partis en faisant l'hypothèse que la publicité politique avait bien des effets sur les utilisateurs. Ils doivent constater, ils le reconnaissent avec une très grande honnêteté dans leur papier, que en soumettant deux échantillons et des échantillons représentatifs, pas des étudiants qu'on a pris dans la salle pour faire des enquêtes, mais des échantillons représentatifs des publics américains, l'échantillon qui avait vu la publicité ne se rappelait pas plus des publicités politiques que celui qui l'avait vu. L'enquête qui fait le plus débat et qui a sans doute été le plus au cœur de cette idée qu'il fallait relativiser ou en tout cas faire attention au débat sur les fake news aux États-Unis est celle qui a été conduite par Untalcott et Matthew Jenko, et tous les deux insistent dans un travail assez original sur le fait que effectivement il est probable que tous les Américains aient vu au moins une fois, tous les Américains utilisant Internet, une fake news passer dans leur ordinateur ou leur téléphone mobile, Mais ce que montre l'enquête, c'est que seulement 8% de ceux qui l'ont vu ont cru à cette fake news. Et plus étonnant encore, ils avaient mis dans leur enquête un dispositif placebo, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des fausses fake news. Et de façon surprenante, les gens qui se souvenaient et ont cru à des fake news se souviennent aussi et ont aussi cru dans la même proportion à des fausses fake news qui leur ont été proposées. Une autre enquête souligne, elle aussi, la massivité et l'importance du phénomène, montrant que ces fake news sont principalement des fake news qui venaient en soutien de la candidature de Donald Trump, mais elle montre ce que l'on sait par ailleurs, que la concentration des lectures et des centres et des intérêts pour ces fake news est venue d'abord se polariser sur des électeurs très convaincus et très engagés de Donald Trump. 10% de l'échantillon des plus favorables et des plus engagés à Donald Trump représente 65% des visites sur les sites de fake news qui ont été montrés aux Américains. Et puis un dernier point de relativisation dans ces travaux souligne le fait que les électeurs de Donald Trump, la plupart du temps, et dans un débat qui est assez classique aux États-Unis sur la polarisation politique des électorats, les électeurs qui sont les plus polarisés sont plutôt des électeurs vieux et qui utilisent peu Internet. Et donc l'idée que ce soit le numérique qui ait contribué à cette nouvelle polarisation des électorats aux États-Unis n'est pas démontrée, même si pour les plus jeunes, il y a évidemment une question qui mérite d'être posée sur cet aspect. Alors ces travaux, relativisant cet effet fort de l'information sur un individu, ont en revanche apporté des explications plus structurelles qui me semblent être importantes de rappeler dans ce débat. Alors je vais vite, là aussi, encore une fois. D'abord qu'il y a une baisse de confiance très forte, on l'a souligné en début de ce colloque, de confiance dans les institutions de confiance que sont les médias américains, et que cette baisse est particulièrement forte dans le camp conservateur. Autre résultat, plus troublant et à mon avis plus important dans toute explication de la transformation du paysage politique américain, c'est celui du paysage médiatique américain. Et quand on le représente via le numérique, c'est-à-dire à travers les liens entre les sites et les liens partagés entre les sites, on constate que les médias conservateurs américains ont perdu les producteurs d'informations centre-droit habituels qui dominaient le paysage politique américain et notamment qui était celui du Washington Post et du Wall Street Journal. Et qu'aujourd'hui, la galaxie médiatique et la galaxie médiatique des médias visibles aux États-Unis est dominée par Breitbart et par Fox News. Et donc il y a une véritable tension à l'intérieur de l'espace médiatique central américain dans lequel Fox News et Breitbart dominent cet espace médiatique. Autre résultat important, me semble-t-il, de ces travaux, est celui auquel les sociologues des médias sont toujours sensibles, parce que s'ils ne croient pas beaucoup qu'une information change le comportement d'un individu, ils pensent en revanche que la structuration de ce qu'on appelle l'effet d'agenda, c'est-à-dire la mise en ordre des thèmes principaux qui constituent les thèmes à partir desquels les électeurs vont devoir faire leur choix au moment du vote, joue un rôle important dans la structuration des préoccupations. Ces préoccupations sont fabriquées par l'agenda des médias et elles deviennent les préoccupations des lecteurs, auditeurs, internautes et électeurs par la suite. Or, ce que montrent beaucoup de ces études, et notamment celles menées par Yoshai Benkler et Ethan Zuckerman, c'est qu'on a dans le débat public américain, à partir de tous les sites dont je viens de vous montrer la carte, le fait que la candidature de Hillary Clinton a principalement été écrite dans les médias visibles aux États-Unis autour des faits de scandalisation, notamment de la boîte mail d'Hillary Clinton, beaucoup plus qu'autour des enjeux politiques qu'elle portait dans la campagne, ce qui a étrangement été un tout petit peu moins le cas pour Donald Trump. Et de façon plus perverse, Duncan Watts, lui aussi un excellent chercheur dans le domaine, est venu montrer que les unes du New York Times mettaient beaucoup plus en avant les scandales touchant Hillary Clinton que ceux touchant Donald Trump et ne parlait que très très rarement des enjeux politiques portés par les candidats. Ce qui invite à dire qu'il y a véritablement un effet structurel dans lequel l'espace médiatique américain a été réattrapé, on pourrait dire colonisé, par la galaxie Breitbart, Fox, dans cette affaire. Et puis, il y aurait un autre point de discussion de tous ces travaux, mais je ne vais pas le faire parce que je serai trop long dans cette affaire, autour de cette idée de bulle filtrante, qui a été un débat qui court constamment les réflexions, les enjeux autour d'Internet qu'a porté Kassenstein et Lipariser, cette idée que nous serions dans les mondes numériques, que nous serions enfermés à l'intérieur d'une bulle informationnelle dans laquelle nous n'aurions pas accès à des opinions qui seraient adverses aux nôtres. Alors, tous les travaux, et là, il y en a une liste interminable, montrent que cette bulle est percée de partout. Et que, si l'on cherche à comparer par rapport à l'exposition aux médias traditionnels, de la radio et de la presse et de la télévision, nous avons accès à beaucoup plus d'informations et plus d'informations diverses grâce au numérique. C'est un fait structurel majeur. Ce qui n'empêche qu'en raison d'un facteur très ancien et que Internet ne cesse de réanimer, mais il ne réanime que des formes d'attitude et de comportement des individus qui sont, eux, bien connus, nous nous exposons sélectivement à des informations qui nous ressemblent le plus dans cette situation. Une des enquêtes importantes sur la bulle Facebook, donc nous serions enfermés dans notre fil d'actualité Facebook, dans des flux d'informations qui correspondent à nos propres idées, et le fait, et ça a été très bien montré par une étude massive sur 11 millions de comptes Facebook, donc quelque chose de robuste, que cet enfermement relatif dans des choix proches des choix de l'utilisateur était lié au choix des amis que nous faisions. Nous choisissons des amis, mais là, pas besoin d'être un grand sociologue pour le dire, nous choisissons des amis qui ont des proximités d'âge, de profession, de centre d'intérêt et aussi d'attitudes politiques qui sont relativement proches des nôtres. Et le seul choix des amis, plus que l'algorithme de Facebook, contribue à enfermer, ou en tout cas à limiter, le centre des préoccupations des Français. Mais juste pour relativiser cette idée que Internet enfermerait, je vous montre ces chiffres, issus d'un travail de Thierry Vedel, récent, mais toujours très passionnant à lire, à propos de la télévision. 44% des Français ont pour principale source d'information la télévision. 1% des Français, dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, n'utilisent que les réseaux sociaux pour s'informer. Hein. 44% sur la télévision. Et cette magnifique opposition entre le journal de 13h de TF1 et celui du 20h de France 2, le journal de 13h de TF1 aurait élu Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc, les médias exposent sélectivement, ou en tout cas, nous nous exposons sélectivement à des médias qui proposent des contenus, des informations, une manière de mettre en agenda l'actualité qui correspond aussi à des identités politiques et sociales des individus. Alors, je voudrais très rapidement essayer de vous dire bon, alors, quelle est la situation en France à partir de quelques enquêtes qui ont pu être faites et essayer d'argumenter sur cette idée que, d'une certaine manière, notre débat aujourd'hui est lié au fait qu'on pourrait dire naïvement qu'il y a deux grands circuits de l'information numérique qui sont mis en place. Le premier circuit est un circuit que je vais appeler le circuit central, circuit, on va dire, de l'autorité, l'autorité des émetteurs et la mise en circulation des propos par les internautes. Ça correspond d'abord à l'audience des sites. Quand on regarde l'audience des sites, ici en turquoise, qui sont les sites des médias traditionnels, elle est très, très, très largement supérieure à l'audience des sites qu'on va appeler les sites de fake news, tels qu'ils ont été identifiés par les décodex monde. Et si on regarde le temps passé sur les sites, on a les mêmes résultats, avec encore moins de temps passé sur les sites dits de fake news, et puis cette chute habituelle. Le Figaro est en premier pour les clics, mais il n'est jamais en premier, c'est le monde, pour les audiences. Donc, du point de vue de l'audience, on a bien une structuration qui, elle aussi, distribue l'information avec une attention qui se concentre d'abord vers le centre de la part des internautes. Deuxième élément, celui de la spécificité, et là on est très très loin du cas américain que j'ai évoqué, de l'espace médiatique français, notamment dans la mise en place d'un système de coordination qui, pendant l'élection présidentielle française, s'est appelé Crosscheck, soutenu par First Draft, une fondation des plateformes de l'Internet américaine, permettant aux rédactions de collaborer pour débunker ou faire la critique des informations fausses qui ont été identifiées dans les modes de circulation sur Internet. Dispositif qui suppose un accord et une sorte d'accord de coopération compétitive, on va dire, entre les sites d'information pour ne pas faire ce qui se passe, c'est beaucoup passé aux États-Unis, utiliser les fake news dans la compétition que se livrent les grands médias entre eux, mais pour d'un commun accord, éviter de les remonter. Alors, un des éléments très troublants de cette organisation assez hiérarchique de l'espace public numérique peut être observé à travers les catégories que le Décodex du Monde a produit. Le Décodex sépare quatre catégories, les sites plutôt fiables, les sites parodiques, les sites douteux et les sites peu fiables, qui sont les sites vraiment de fake news et conspirationnistes, droite, extrême droite, dans ce dispositif. Si on regarde les liens hypertextes, qui est un très bon signal de l'autorité sur Internet, que s'échangent entre eux ces sites, on constate un modèle absolument vertical. Les sites fiables ne citent que des sites fiables et ne citent jamais les autres types de sites qui sont présents sur Internet. Les douteux et les parodiques citent les fiables et les sites conspirationnistes et de droite extrême citent les fiables. Le faux a besoin du vrai, il a besoin toujours de le citer. Mais cette organisation verticale montre que le vrai ne cite pas le faux et sans doute qu'une des premières leçons d'un écosystème numérique qui respecte cette hiérarchie de l'autorité est d'apprendre, comme l'ont fait d'une certaine manière les médias français pendant la campagne électorale, à ne jamais reciter plus bas que soit dans la hiérarchie de l'attention et surtout de citer les sites douteux et faux dans cet espace. Autre résultat qui a été mené par l'Institut des systèmes complexes, qui est un dispositif qui s'appelle le politoscope. Le politoscope permet de représenter autour de chaque candidat, à partir de données venues de Twitter, les communautés des comptes Twitter les plus actifs, et il y en a plusieurs centaines de milliers qui ont été représentés, autour de chacun des candidats parce qu'ils ont retweeté des informations concernant les candidats. Et on retrouve une carte politique qui est assez interprétable, qui est la carte politique de la campagne présidentielle française. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est des résultats difficiles à lire, mais qui montrent que dans ce système plutôt hiérarchique de la visibilité des sites et de la minoration des sites de fake news, on a cependant des fuites. Alors, pour observer ces fuites, on va regarder les quatre catégories qui ont été données par le Décodex. Si on regarde d'abord les sites fiables et le constat global, c'est que dans l'ensemble des communautés de centaines de milliers de comptes Twitter qui ont parlé de la campagne et qui se sont associés plus ou moins à différents candidats de la campagne, 97% des URL qui ont été partagées sont des URL soit qui ne sont pas dans le décodex, soit qui sont fiables du point de vue du décodex. Donc la proportion d'informations fausses mises en circulation, je vais vous la montrer, mais elle reste minime par rapport à la proportion d'informations fiables. Et quand on regarde la répartition entre les différents candidats de cette information fiable, elle est à peu près égale avec, vous le voyez, une petite faille autour de Asselineau et Marine Le Pen. Si on regarde les informations parodiques, qui est la trajectoire bleue sur ce graphe, on voit là pour le coup que Jacques Cheminade, les partisans de Jacques Cheminade, d'Asselineau, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, ont aussi partagé des informations issus des sites parodiques. Si l'on regarde maintenant l'information qui est appelée orientée, c'est-à-dire très militante et très politisée, on pourrait dire, très interprétative, voire idéologique, dans les catégories proposées par le décodex, on constate que chez Marine Le Pen et chez Asselineau, on va voir circuler des liens venant de ces sites. Et si on regarde les informations véritablement fake, conspirationnistes et extrémistes, c'est là aussi, à travers la porte ouverte par les partisans de Marine Le Pen, qu'une partie de la circulation de ces informations est passée, et on peut le voir à travers d'autres représentations statistiques que je vous passe, mais 48% des fake news sont en fait passées par la communauté des comptes Twitter, là je parle que de Twitter, de Marine Le Pen. Dernier élément d'information sur ce premier circuit, c'est que quand on fait la cartographie des différentes communautés des candidats et des sites web d'informations qui ont été partagés par ces candidats, on retrouve un effet de centralité très très fort dans cet espace. Les candidats ont bien chacun des petits nuages en rouge qui représentent des sites assez engagés, assez proches des candidats, qui ne sont pas partagés par les autres candidats. Mais en revanche, si on regarde le cœur de cette affaire, on va retrouver l'ensemble des grands médias français partagés diversement par les différentes communautés des comptes Twitter les plus engagés des candidats. Et puis, dernier élément utile toujours aussi, c'est de regarder, on nous dit toujours une fake news, elle a été partagée 1 million de fois. Mais qu'est-ce que veut dire partager dans les espaces numériques? Alors, je vous fais la petite démonstration là, qui a été faite par Mathieu Jacomi sur est-ce que Macron est gay? Macron est gay, cette information est venue de façon très ancienne, elle a été publiée comme rumeur par Closer et par Le Point, puis complètement oubliée. Elle est publiée comme étant une information, une rumeur, mais en tout cas plutôt positivement, quand Le Point est rouge. Et puis, dès que Russia Today va, avec ma petite flèche, ranimer cette information qui était dans les caves du web, pour la faire réapparaître, on voit une déferlante d'informations qui vont être mises en circulation, donc elles vont être comptées comme une fake news qui circule, qui sont en fait des gens qui disent « attention c'est faux, debunk ». Une grande partie des chiffres qui nous sont donnés sur la massivité des circulations sont le fait que beaucoup d'internautes utilisent une sorte de rationalité pratique et qu'ils veulent absolument prévenir les autres que cette information est fausse, ce qui joue toujours un rôle très important dans la circulation des fake news. Donc vous voyez ce modèle, ce premier circuit de l'information, qui est une sorte de circuit central, qui est réglé par une sorte d'autorité, non pas une autorité de la tradition, mais une autorité de la procédure, de la confrontation. Elle montre que, en grande partie, les internautes se fient à l'autorité des sources, en tout cas sur Twitter et sur les sites web, que dans l'espace des médias français, on a ce système de coopération qui fait que l'espace est d'une certaine manière réglé sur une vérification mutuelle pour ne pas faire remonter les informations, qui est aussi une rationalité pratique des internautes. On se signale les fake news. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que, d'une certaine manière, quand on regarde le haut, la visibilité de Twitter et des débats sur Internet, les internautes ne cessent de mettre en pratique une forme de distance critique, d'examen, de vérification des sources, de retrouver le tweet qui montre que la déclaration de l'homme politique aujourd'hui contredit ce qu'il a dit il y a 3 mois, etc. Cette pratique de la vérification, etc., cette culture tatillonne de l'exactitude et de la vérification est quand même au cœur des procédures centrales à haute visibilité, en tout cas sur Twitter, dans lequel l'exactitude factuelle est devenue très importante. Ce qui n'empêche que cet espace peut être subverti par des entreprises différentes, liées d'abord à des acteurs centraux de la vie politique. Et quand on est le compte, alors je ne vais pas donner de nom, Nadine Morano, à haute visibilité, et qu'on va chercher dans les caves du web une information fausse, douteuse, dont on sait qu'elle n'est pas sûre, et qu'on la reprojette dans la zone de haute visibilité du web, on blanchit la fake news et on la met en circulation. Et il est évident que la déformation structurelle de l'espace médiatique américain a contribué à produire cet espace-là dans lequel on a des émetteurs centraux qui sont devenus de véritables producteurs de fake news. Deuxième élément important, c'est que cet effet de concentration et de vérification mutuelle et de contrôle mutuel qu'exercent en fait les médias et les comptes Twitter les plus actifs sur l'information publiée par les médias crée une zone d'exactitude, de vérification factuelle qui ouvre à l'extrême droite et à l'extrême gauche, c'est-à-dire un espace pour des informations qui ne soient pas constamment soumises à un procès d'exactitude et qui laisse plus de place à l'interprétation ou à l'idéologie ou à l'opinion qui soit présente. Et on le voit très bien apparaître avec l'émergence, hein, le média, Valeur Actuelle, Causeur, de médias qui essayent de rentrer dans l'espace public central par les périphéries. Et puis, il faut le dire, la question économique est absolument centrale dans la formation de ces modèles. Alors, je voudrais maintenant aller, mais très très rapidement, sur un deuxième circuit. Parce que ce circuit-là, me semble-t-il, fonctionne de façon vacillante, avec tous les problèmes énormes du web, de compétition, de haters, de conflits qui peut naître entre les internautes. Mais, d'une certaine manière, il exerce un effet de confinement dans la situation française, sous les conditions que je viens de dire, à la remontée des fake news dans l'espace à haute visibilité. Ce n'est pas le cas de Facebook, qui propose un autre circuit de circulation des informations, qui passe, lui, non pas par la relation entre les internautes et les médias d'information, mais qui passe par la conversation qu'ont entre eux les internautes. Et quand on regarde les enquêtes américaines, on voit là aussi que les fake news ne sont pas tellement passées par les moteurs de recherche ou par l'accès direct à l'information, mais qui sont bien passées par les médias sociaux. Et quand on entend médias sociaux, il ne faut pas penser Twitter ici, mais il faut véritablement penser Facebook. Une enquête de Reuters montre de façon sidérante que dans la comparaison que j'ai montrée tout à l'heure sur les clics d'audience des sites d'information centrale, traditionnelle, et des sites de fake news, les sites d'information centraux étaient dominants. Quand on regarde le taux d'engagement des informations publiées sur Facebook par ces mêmes médias, un seul média, hein, qui s'appelle Santé plus Mag, fait à lui seul plus de taux d'engagement que tous les médias traditionnels français. Que publie Santé News Mag ? Du bullshit. Et là, il n'y a pas d'autre terme. Alors, c'est un terme qui a été défini par des philosophes américains. Le terme de fake news est assez peu adapté dans l'idée de l'information délibérément trompeuse cherchant à orienter. Même si, sur Facebook, il est évident qu'il y en a beaucoup qui circulent et qu'il y a des officines qui travaillent à les mettre en circulation. Mais ce qui domine véritablement en termes d'engagement et d'audience dans ces affaires, ce sont des informations inventées, fabriquées, retraduites d'articles de recherche scientifique portant principalement sur la science, la santé et la médecine, et qui est une... Bon, alors, j'ose à peine vous les lire. Hein, une femme augmente son QI en buvant du sperme. L'information la plus... ayant le plus circulé dans l'espace Facebook français aujourd'hui. Le compte de Santé Mac Plus a plus de 7 millions d'abonnés. Il y a très, très peu de comptes sur Facebook. Je crois que l'équipe fait mieux. Mais en France, qui parvient, Le Monde a 4 millions d'abonnés sur Facebook. On entre dans un espace dans lequel ce qui vient à l'internaute est un ensemble disparate, extrêmement mélangé, de proverbes, de blagues douteuses, de faits divers crasseux, de quiz, de rubriques sexistes concernant la sexualité, et aussi, pour certains de ces sites, de fake news dont certaines peuvent être produites de façon délibérée pour mettre en doute ou pour amener des thèses conspirationnistes, complotistes, ou en tout cas s'articuler à cette idée de méfiance généralisée à l'égard des institutions qui sont proposées. Je voudrais insister sur le fait que ce circuit, il suppose en fait un autre contrat de lecture, et donc d'autres types d'études de réception dans cet espace, qui est véritablement de se dire que les internautes utilisent ces informations comme des blagues, comme des provocations, comme des questionnements, comme des moyens de nourrir une sorte de conversation qui se répand dans des pages non publiques, donc non accessibles à quiconque, de Facebook, dans lesquelles cette diffusion virale n'a pas de mécanisme de contrôle ou d'autocontrôle comme ceux que j'ai mentionnés dans le circuit central de l'espace public numérique pour provoquer la contre-réaction, la vérification, le sourçage et l'examen de la factualité des informations. Ça se diffuse dans les conversations, ça provoque de nouveaux systèmes de mise en discussion, et ces nouveaux systèmes de mise en discussion, on voit bien qu'ils viennent remplacer ou se substituer à toutes les industries du divertissement qui, depuis très longtemps, de l'astrologie et d'autres sources d'informations, de ces informations populaires, qui étaient plutôt plus ou moins contrôlé par une sorte d'industrie, et qui aujourd'hui peut permettre à de tout petits acteurs d'entrer dans les conversations et d'obtenir les succès que l'on sait. Santé Mac Plus, c'est deux personnes qui, depuis le Maroc, ont ces 7 millions de comptes sur Facebook. Alors je voudrais conclure en réinvitant à cette idée qu'il y a beaucoup de fake news, on ne sait pas comment elles sont reçues. Et peut-être que si on revenait à un paradigme des effets faibles, plutôt que d'imaginer toujours, qui est quand même une sorte parfois de maladie de l'intellectuel, de croire que les autres croient, hein, de ne pas toujours poser la question est-ce qu'ils croient ou est-ce qu'ils ne croient pas, mais d'essayer de comprendre comment les internautes comprennent, s'approprient ces informations, dont on voit bien, mais je pense que Romain va en parler, que dans la mise en discussion de ces informations, c'est plutôt la formule d'Octave Manoni reprise par Jeanne Favre-Sada qui s'impose, plutôt qu'un binaire « je crois, je ne crois pas », c'est un « je sais bien, mais quand même », ça va peut-être faire rire, ça va provoquer, ça va produire quelque chose dans les conversations qui sont mises en place. Et je voudrais finir en insistant sur la nécessité aussi dans ce débat de ne pas entièrement considérer le rapport individuel de l'individu à l'information, de l'individu à ses croyances rationnelles ou bien naïves, mais de remettre en place des éléments d'interprétation structurelle de ce débat, puisque j'espère vous avoir convaincu. On voit bien que dans le débat américain, c'est une véritable transformation de l'espace médiatique qui s'est mise en place. Je vous remercie.